Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jean-Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi, affrontement depuis samedi dernier entre les FARDC et la FPIC à Lengabo, dans la périphérie de Bounia, en Ituri, selon des sources concordantes. Ces hommes armés cherchent à entrer en ville, mais ils en ont été repoussés par les FARDC. Dans le Kwilu, la société civile dénonce l'absence de prestataires de santé dans 9 points d'entrée sur les 11 que compte la ville de Bandundu pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus. Cette structure citoyenne redoute des contaminations. Notre invité, c'est le directeur de la province éducationnelle du Congo central 2. Lambert Mbadou parle de l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers l'apprentissage en langue nationale tel le Kikongo. Madame, Messieurs, bonjour. En Ituri, des combats se déroulent depuis samedi entre les FARDC et des miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, sur plusieurs fronts, notamment à Lengabo, vers Nyakeru et Mwanga, dans la périphérie de Bounia. Selon des sources concordantes, ces hommes armés cherchent à tout prix à entrer dans la ville, mais ils ont été repoussés par l'armée. Dans la même nuit, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de la ville. Certains habitants indiquent que ces miliciens se seraient déjà infiltrés dans la ville. À Bounia, le récit d'Isaac Moupé.
La situation sécuritaire se dégrade chaque jour au chef-lieu de la province de l'Ituri et à la périphérie de Bounia. Depuis une semaine, des combats sont signalés aux alentours de la ville. Jusqu'à ce lundi, les FARDC sont en train de traquer un groupe de la milice FPIC au village de Kaliamoulague, à moins de 10 km en secteur de Maïmassid dans les territoires d'Irumu. Le chef coutumier local affirme que des détonations d'armes sont entendues depuis la nuit dans la zone. À l'entrée nord de la ville, un autre groupe de la milice FPIC a tenté de progresser la nuit dernière vers Bounia. Ces miliciens ont été stoppés par les FARDC qui les ont mis en déroute. Jusque-là, les bilans de ces affrontements n'est pas disponible, affirme l'armée. Pendant ces temps, à Bounia, plusieurs coups de feu ont été attendus la nuit dernière au quartier Kindia, Hoho, Kolomani, Bigo et Muzipela. Selon certains habitants, des miliciens se seraient infiltrés dans la ville pour préparer leurs assauts. Le maire de la ville, Fimbo Lebili, demande à la population d'être vigilante et de renforcer les mécanismes d'alerte pour dénoncer les suspects. Il ajoute que les forces de l'ordre ont intensifier les patrouilles pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, les conséquences de la recrudescence de l'insécurité pèsent sur la population de la ville de Bounia. Des mouvements massifs de la population sont signalés dans plusieurs localités qui sont désertées. Le trafic est également timide sur le tronçon Bounia-Kassegni et Bounia-Komanda-Beni. Les habitants s'en plaignent et interpellent le gouvernement à assumer sa responsabilité pour l'instauration d'une paix durable dans la province. Isaac Remoyope.
La ville de Bounia est enclavée suite à l'activisme des miliciens de la FPIC. Sur les tronçons Bounia-Kassegni au bord du lac Albert, le trafic des véhicules et des motos est suspendu depuis samedi car des combats se déroulent dans la zone. Même constat sur les tronçons Bounia-Komanda-Beni à cause de la présence des miliciens vers Lengabo à moins de 5 km de Bounia. De nombreux commerçants se disent asphyxiés. Ils ont peur de voyager pour ne pas tomber dans l'embuscade des hommes armés, ce qui selon eux risque d'entraîner non seulement la rareté des marchandises et des produits vivriers, mais aussi la flambée des prix sur les marchés. Pendant ces temps, plusieurs localités sont vidées de leurs habitants qui fuient les combats entre les FARDC et la milice FPIC. C'est notamment Nyakeru, Kanyamuyabe, Taliema, Lengabo, Solaya 1 et 2, Ilangibila et Nzoga dont la population a afflué à Bounia, à Kassegni en secteur de Baïma Sud et en chefferie de Walindubindi. Les déplacements des populations sont également signalés vers Mwanga, Kolomani, Miala et Tokodo. Ces personnes vivent dans des conditions difficiles. Elles exigent une seule chose, le rétablissement de la paix pour regagner leurs milliers d'origine. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis c'est officiel, la base opérationnelle de la MONUSCO à Lusenda a fermé en territoire de Fizi au sud Kivu. Le chef du sous-bureau Uvira, conjointement avec la sécurité des Nations Unies, la section d'ingénierie de la MONUSCO et des affaires civiles, est rentré le week-end dernier d'une mission conduite jeudi dernier à Lusenda pour assister à la fermeture de cette base et procéder à la remise et reprise avec les autorités locales. Le compte-rendu de Fiston Goma Mayabala.
L'équipe de la MONUSCO a organisé une réunion avec le représentant du chef de secteur de Tanganyika, le chef de groupement Balala Nord et le commandant des forces des Nations Unies sortant. Les parties prenantes ont été informées de la situation sécuritaire de la région, qui a été déclarée relativement calme, mais interrompue par des cas sporadiques de pillage sur la nationale numéro 5. Ces cas d'insécurité sont perpétrés par des groupes armés en provenance des moyens plateaux de Madjaga et d'autres mouvements de groupes armés. Au nom de l'équipe de la MONUSCO, le chef du sous-bureau Isaac Adanyosi a félicité les contingents du 3e bâton pakistanais pour leur dévouement et leur travail acharné pendant les 5 années passées à la base opérationnelle de Lucenda et les autorités locales pour leur coopération. L'autorité onusienne a reconnu la présence dissuasive de cette base opérationnelle de la MONUSCO grâce à laquelle Lucenda a été un village refuge pour les habitants des environs. Il a cité l'exemple de l'année 2017 où les éléments du groupe Yakutumba ont attaqué de nombreuses agglomérations de Fizi à l'exception de Lucenda. De leur côté, les chefs locaux ont fait savoir la crainte des réfugiés burundais et des communautés environnantes sur la reprise des incursions de groupes armés dans le village au départ des forces onusiennes. Douvira Fiston Mamayabal, Radio Okapi.
Santé à présent. Dans la province du Kwilu, il n'y a plus de prestataires de santé dans 9 points d'entrée sur les 11 que compte la ville de Bandundu pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus. Selon le chargé de communication de la nouvelle société civile qui les dénonce, il y a aussi manque d'équipement des luttes contre cette pandémie. Pour Brunel Ndombe, l'absence de ces prestataires de santé et des dispositions pratiques constitue un danger pour la population car les voyageurs qui viennent de Kinshasa entrent dans la ville sans être testé. Il redoute des contaminations. Il est au micro d'Irène Mboma.
Le constat est tellement amer. Nous avons ici dans la ville de Bandundu au moins 11 points d'entrée et sur le 11, nous avons que 2 points d'entrée. Les agents de la santé exercent leur travail et sans matériel, sans équipement. Vous voyez que les contacts avec le corps étranger venant bien sûr de Kinshasa sans pour autant être dépistés, on n'a pas vraiment la certitude de croire que réellement que ces gens-là qui viennent ici dans la ville de Bandundu, ils sont sans et saufs, sans Covid-19. On a peur. Vous voyez que c'est un risque pour nous, la population, parce que la pratique des lave-mains ne se fait plus. Il n'y a que le port des cache-nez qui, par moment, la population est en train de respecter. Et c'est un danger déjà pour nous. Nous sommes tellement exposés, nous, la population de la ville de Bandundu. Les cache-nez que porte la population de la ville de Bandundu, c'est justement par peur de la police. Aujourd'hui, avec cette deuxième vague de la Covid-19 dans le pays, dans un proche délai, nous allons enregistrer plusieurs cas dans la ville de Bandundu par manque, bien sûr, des équipements, par manque des dispositions pratiques à cette pandémie à Covid-19.
Et puis l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui se distribuent depuis le 3 décembre dernier dans la zone de santé de Mwanda n'est pas effective. Les moniteurs indépendants déployés par l'OMS dans les aires de santé de Mwanda disent avoir constaté que beaucoup de familles, après avoir reçu ces moustiquaires, les étalent à l'ombre au-delà de la durée normale. Préoccupés par ce constat, le médecin chef de la zone de santé de Mwanda demande à la population d'utiliser les moustiquaires 24 heures seulement après les avoir exposés sous l'ombre pour leur aération. À Matadi, une correspondance de Nana Plurich Mambou.
Ces moniteurs indépendants dont la mission est de s'assurer que les moustiquaires imprégnés sont distribués effectivement à tous les ménages bénéficiaires et d'identifier les insuffisances dans la mise en œuvre de cette campagne de distribution rapportent que dans bon nombre de ménages disséminés dans les 12 aires de santé de Mwanda où ils ont enquêté, les moustiquaires reçus ne sont pas utilisés jusque-là. Ces moustiquaires sont étalés voire même sous le soleil depuis qu'elles ont été reçues le 3 décembre dernier. Lorsque ces moniteurs interrogent les ménages, certains affirment qu'ils sont allergiques à l'insecticide contenu dans les moustiquaires. En réaction, les médecins chefs des zones de santé de Mwanda rassurent que ces moustiquaires ne causent aucun tort à la santé. Docteur Poussien Kiyimbi.
Les mildes, dès qu'on vous donne avant de l'utiliser, il faut les mettre sous l'ombrage 24 heures. La moustiquaire que nous donnons n'est pas toxique parce que ce sont des moustiquaires qui ont été traités et homologués et par l'OMS et par notre gouvernement. Toutes ces instances sont convaincues que cette moustiquaire ne peut pas perturber perturber votre santé.
Pour ce faire, les moniteurs indépendants de l'OMS préconisent l'intensification de la sensibilisation, surtout dans l'aire de santé des Yachi, où plusieurs ménages ont manifesté le refus de recevoir les moustiquaires. De Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, des éléphants sont signalés cette fois dans le territoire de Kabalo, annonce l'autorité locale. Après Malembankulu, dans la province du Olomami et Manono, ces pachydermes sont à plus ou moins 500 km au nord du parc de Lupemba. Explication à Kalemi d'Expedi Mwambamubi.
Après les territoires de Malembankulu dans le Olomami et Manono dans le Tanganyika, c'est au tour de Kabalo, un autre territoire du Tanganyika, de faire les frais de la divagation des éléphants. Confirmation avec Raymond Maloba, administrateur de territoire.
Il y a présence avérée dans le groupement de Kangom de pachydermes en grand nombre. C'est de là d'ailleurs que je viens. Ils viennent d'Ankoro, mais on ne sait pas en tout cas leur milieu d'origine. Mais sinon, on parle de Kilingale les pensions. C'est à partir de là qu'ils ont quitté pour entrer dans la terre de Kabalo.
Du coup, plusieurs localités se retrouvent en insécurité.
Ils sont parsemés dans tout le groupement de Moulimé. À présent même, on venait encore de m'appeler au niveau des Kassou. Ils commencent maintenant à se diriger vers Ndéa.
Toujours d'après l'autorité, les éléphants étaient déjà de passage dans ce territoire en 2019. La différence, souligne-t-il, est que cette fois, c'est plus sérieux. Ces éléphants se retrouvent aujourd'hui à plus ou moins 500 km du parc de Lupemba, leur milieu d'origine, avec leur pouvoir dévastateur. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, les ministres provinciaux de 26 provinces de la RDC comptent actuellement 14 mois d'arriérés de salaire. Le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Omami dénonce une politique de 2 poids 2 mesures. Jean-Hilaire Kazadi Moutamba sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour décanter cette situation. Rendons-nous maintenant au Nord Kivu où l'association des taxis, motos et voitures réclame la réparation des engins de ses membres qui ont été endommagés lors des échauffourées de vendredi dernier entre des policiers et les conducteurs lors de la traque des motos sans plaque d'immatriculation. Elle exige aussi le paiement des factures des 2 blessés par balle. Le secrétaire rapporteur de cette association annonce qu'une grève est décrétée à partir de ce lundi. Jérôme Maloulé est au micro de Florida Kambu.
Il y a un taximen qui est blessé au niveau des genoux et il y a aussi un autre taximen blessé au niveau de la tête. 2 taximen qui sont à l'hôpital. Et il y a 2 filles qui sont aussi à l'hôpital par des accidents. Le fait que les policiers voulaient les poursuivre de force. Nous avons été surpris même de constater qu'un policier peut adresser des coups de balle dans une moto qui est stationnée et même prendre des machettes pour commencer à macheter même certaines motos. 8 motos qui ont été endommagées, des pneus qui ont été déchirés, les réservoirs qu'on a criblés de balles, même date de moteur sur le seuil. C'est pourquoi nous avons décidé que à partir de ce lundi jusqu'à mardi, 2 jours sans taxi, qu'on fasse une réparation de nos engins qui ont été endommagés sans délai et aussi la restitution des objets qui sont saisis par la police. Nous demandons le paiement des factures médicales pour les victimes. Si on ne parvenait pas vraiment à respecter les mots d'ordre que nous venons de dire, nous projetons un sit-in pour ce mercredi à la mairie de Butembo. Mais aussi, nous demandons à ce que le commandement en place à la personne de Paul Ngoma, soit il démissionne, soit il soit remplacé par une autre personne.
Actualité internationale.
5 jours après les événements du Capitole qui ont fait 5 morts et ébranlé l'Amérique, la présidente de la Chambre de représentants, Nancy Pelosi, annonce une série d'actions pour faire partir le président républicain qualifié de menace contre la démocratie et la constitution américaine. Les démocrates devraient entamer cette semaine une procédure dans les camps républicains. Des élus semblent eux aussi ouverts à soutenir cette mesure. Les experts de l'organisation mondiale de la santé OMS chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus sont attendus en Chine cette semaine. Cette visite est ultra sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes dans le monde. Initialement prévue la semaine dernière, cette visite des experts de l'OMS avait été annulée à la dernière minute faute d'autorisation. C'est confiant dimanche soir à une chaîne de télévision télévision italienne, le pape François a rappelé la nécessité, selon lui, d'être vacciné, estimant avoir du mal à comprendre les opposants à la campagne de vaccination. À 84 ans, le souverain pontife a confirmé hier qu'il se fera vacciner lui aussi, car du point de vue éthique, tout le monde doit être vacciné.
L'invité.
Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient d'engager une réforme inédite visant à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC à travers l'apprentissage en langue nationale. Dans le Congo central, cette réforme est mise en œuvre via la distribution de manuels scolaires édités en Kikongo. En quoi cet apprentissage est bénéfique pour les apprenants et pour le pays? La réponse avec le directeur provincial de l'éducation dans la province éducationnelle du Congo central 2, Lambert Mbadou s'entretient avec Nana Plurich Mambou.
Monsieur Lambert Mbadou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur provincial de l'éducation dans la province éducationnelle Congo central 2. Il y a déjà une distribution en cours des manuels scolaires édités en langue nationale. Et pensez-vous que cette réforme va contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC?
Eh bien, je suis très satisfait parce que cette distribution des manuels en langue répond à une préoccupation. Elle fait partie d'une réforme éducative. Vous savez que on a dénoncé la crise de l'apprentissage dans notre système éducatif et le gouvernement a entrepris des réformes, notamment l'enseignement en langue comme l'utilisation des langues locales, des langues des milieux comme médium de l'enseignement dans les classes de première, deuxième et troisième primaire. Donc, il est établi que l'enseignement dans les langues locales a un double bénéfice. Le premier bénéfice, c'est que nous révalorisons nos langues locales, nos langues du milieu, parce que les langues, c'est l'identité d'un peuple. Donc, c'est très important. C'est très important. Deuxième bénéfice, c'est qu'il est établi que lorsque l'enfant, à cet âge-là, au niveau élémentaire, apprend dans sa langue du milieu, dans sa langue locale, eh bien, il y a un développement cognitif spectaculaire. Parce que l'enfant apprend mieux dans sa langue locale, dans la langue du milieu. Donc, c'est pour moi une réforme qui vient effectivement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation chez nous.
Monsieur le Provède, cet apprentissage en langue maternelle est-il bénéfique pour les apprenants?
Mais bien sûr, c'est très important. Nous devons réhabiliter nos langues lorsque l'enfant qui vient de la maison, qui ne connaît aucun mot français et qu'il rencontre l'enseignement dans une langue étrangère, l'enfant peut être perturbé. Mais quand il vient pour apprendre dans sa langue locale, bien sûr, l'enfant apprend facilement les connaissances entre sans problème.
Le Kikongo avec lequel ces manuels ont été édités, c'est celui du Bandundu et non le Kikongo parlé au Congo central. Et cette question suscite déjà des réactions de la part de la société civile. Selon vous, il y a vraiment une si grande différence entre le Kikongo parlé au Bandundu et celui parlé dans la province du Congo central? Lequel parmi ces Kikongo fait partie des Kikongo inclus dans les quatre langues nationales?
Je crois que ça, c'est un faux problème. Voilà, les langues, il y a toujours des variantes. Moi, j'ai vu ce Kikongo et tout le monde comprend ça. Moi, c'est très important. On ne peut pas regarder à l'est. Vous avez les Swahili qui est au Katanga, les Swahili qui est dans les Kivu, les Swahili qui est dans l'ancienne province orientale. Il y a des variantes. Déjà, même les Kikongo qui est parlé à Matadi et à Boma, il y a des variantes. Et donc, c'est un faux problème. C'est un manuel rédigé en Kikongo. Les enfants ont très bien apprendre et mieux que les manuels en français à ce niveau élémentaire.
Que diriez-vous aux utilisateurs de ces manuels?
Eh bien, nous venons de nous adresser aux chefs d'établissement qui vont recevoir ces manuels. Ils doivent savoir que les manuels, c'est un outil pédagogique indispensable. Cette promotion, ce recours à l'utilisation des langues locales dans les classes de première, deuxième et troisième est là depuis longtemps. Mais si on n'a pas réussi jusqu'à présent, c'est parce qu'on n'avait pas de manuels. Maintenant, le moment est venu. Les manuels sont là. Rien ne peut s'opposer à cette promotion des langues locales et pour la meilleure compréhension des enseignements par ces enfants de ces niveaux-là.
Monsieur Lambert Mbadou, vous êtes le directeur provincial de l'éducation dans la province éducationnelle Congo Central 2. Je vous remercie.
Voilà, c'était l'invité de Radio Okapi, le directeur provincial de l'éducation dans la province éducationnelle du Congo Central 2, Lambert Badou était interrogé par Nana Plurich Mambou. À Kinshasa, il est 12h20. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.